This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut Cénociné, votre rendez-vous avec le cinéma qui comprend la tentation des réalisateurs et scénaristes de tout poil lorsque confrontés au choix d'une figure de grand méchant lors de la conception de leurs histoires peuvent facilement succomber au charme maléfique du nazi, figure incontournable de la fiction tant il est vrai qu'en termes de salopards de première catégorie on fait rarement mieux. Si on ajoute à ça un peu du folklore mystico-chelou qui est régulièrement accolé à ce type de personnage, on se retrouve avec un cocktail certes largement exploité depuis des décennies mais auquel on ne peut s'empêcher d'avoir un peu envie de goûter. Tout ça pour dire que nous allons aujourd'hui causer d'Overlord avec un trio de fiers pourfondeurs du mal réunis ici à l'antenne Paris. Julien Dupuis, salut Julien.
Alors, il faut quand même dire que Thomas Rozek il se frotte frénétiquement le torse quoi, en parlant de nazi, je sais pas ce que ça cache.
Ça ne veut rien dire. Bonjour Julien Dupuis.
Bonjour.
Perrine Kenson est là aussi, bonjour Perrine.
Salut Thomas.
Et Stéphane Moïsakis. Stéphane, salut Stéphane.
Salut Thomas.
C'est Nos Ciné épisode 161 et c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Tu m'as troublé, Julien Dupuis.
C'est nazi qui te trouble, apparemment.
Je pense. Oui, sexuellement, il y a quelque chose à creuser. Overlord, donc, nous propulse à la veille du débarquement allié sur les côtes normandes en juin 44, au propre comme au figuré, puisque nous y suivons un groupe de parachutistes américains expédiés derrière les lignes ennemies pour détruire un poste de communication. Sauf que rien ne se passera, évidemment, comme prévu. Outre le fait que leur avion se retrouve abattu et leur escouade réduite à peau de chagrin, ils vont en plus découvrir dans le petit village français qu'ils rejoignent à grande peine que les nazis se livrent à des expérimentations des plus horrifiques.
3 months ago, I was cutting grass in my front yard. And the mailman shows up with a letter from the army. Now I'm here. No idea where I'm gonna end up.
Derrière la caméra, c'est l'Australien Julius Avery, dont c'est le second long métrage après une flopée de courts qui lui ont notamment valu un prix à Cannes en 2008 et au casting peu de visages connus, si ce n'est celui de Yovan Adepo, repéré dans l'excellente série d'HBO The Leftovers, qui tient ici le rôle principal. Votre avis sur cet Overlord, les amis? Stéphane, ne regarde pas tes chaussures, je te demande ton avis.
Bah, mon avis, alors Julius Avery, ouais, c'est peut-être lui qui a fait le film. Moi, j'ai envie de dire que c'est une prod de J.J. Abrams.
C'est une prod Bad Robot, effectivement.
Ça se voit. Ça se voit parce qu'en fait, il y a une espèce de façon de se réapproprier un sous-genre de film, comme il a pu le faire autrefois avec d'autres projets, pour, entre guillemets, les remettre au goût du jour. Et dans le cas présent, le remettre au goût du jour, c'est pas en faire grand-chose, quoi. C'est-à-dire que, oui, il y a des nazis, mais fondamentalement, c'est parce que c'est contextuel. Parce que, oui, on sait que les nazis faisaient des expérimentations. Enfin, en tout cas, c'est un gros fantasme, comment dire, dans le cinéma, en fait, qui est ressorti dans le cinéma d'exploitation, notamment. Même si, bon, c'était avéré qu'ils avaient des intérêts pour des sciences occultes. Mais le truc, c'est que, voilà, c'est des trucs qu'on retrouve même encore récemment. Hein, on voyait ça dans Hellboy ou ce genre de choses.
Ouais.
Voilà. Mais même si, par exemple, dans Hellboy, c'est pas du tout le centre du film.
Non.
Il y a trois fois plus de ça dans Hellboy que dans ce film là en fait, qui ne tire finalement rien du tout de son concept de base, qui est on va croiser plus ou moins le film de guerre ou le film de soldat, je sais pas, avec un film fantastique avec au final des infectés, puisque cette espèce de truc qu'ils trouvent, parce que c'est un truc qu'ils trouvent sous la terre, moi j'ai pas très bien compris ce que c'était, jus de betterave,
tu vois.
Voilà, un truc qui permet en fait d'avoir des super soldats super balèzes, ouais. Tu vois, mais à un prix quoi.
Immortel surtout.
Ouais, immortel, ouais. Ouais, ok. Mais ça, tout ça, il faut le mettre en scène dans le film, en fait. Tu vois, faut en parler, faut le montrer. Faut pas seulement juste écrire une phrase et dire, bah, c'est ça, en fait, le truc, quoi. Et du coup, il y a beaucoup de moments où t'as pas le, tu parles de débarquement, il y a pas de débarquement dans le film, hein, faut que ça soit clair pour c'est pas le soldat Ryan, hein, le film des nazis, ouais il y a des nazis, c'est pas la liste de Schindler non plus, hein, on les voit pas non plus à ce point là être si maléfique que ça, c'est des méchants. Voilà, c'est je suis même pas sûr, là, peut-être que mes camarades vont me corriger, mais je suis même pas sûr qu'il y ait un drapeau nazi dans un coin quelque part. Hein, c'est de ce niveau-là, quoi. Donc, c'est au final, en fait, l'impression que tu as quand tu regardes ce film, c'est de regarder une série B Petit Bras, à laquelle tu peux te raccrocher à rien du tout. En fait, pas d'écriture de perso. T'as le seul perso que j'arrive à peu près à me rappeler, pourtant j'ai vu il y a 3 jours le film, hein. Le seul perso que j'arrive à peu près à me rappeler, c'est un clicheton absolu, c'est un soldat qui aime le baseball et qui s'entend avec un gamin, et ils ont une espèce de relation, voilà. C'est pas le personnage principal, hein. Du tout. C'est limite, il y a que ça en fait qui ressort de ce personnage-là. Et les autres, il y a quand même le fils de Kurt Russell, mais bon, voilà, c'est pareil, tu ne retiens pas du tout... J'ai même pas retenu son nom, j'ai rien retenu, tu vois. Et c'est voilà, c'est un peu, moi je sens que je vais pas me faire des amis à cette table, mais c'est un peu comme Cloverfield en fait. C'est que j'ai l'impression qu'il y a cette espèce d'idée, on va te survendre un concept, survendre quelque chose qui est le fonctionnement de J.J. Abrams depuis toujours. Donc cette espèce de logique de Mystery Box qui débouche sur rien, qui débouche sur un film qui pour moi n'est ni fait ni à faire parce que il y a pas d'enjeu, il n'y a pas de péripéties, il n'y a pas d'écriture de perso, moi j'en retiens aucun. Il y a peut-être éventuellement, on se dira un jour, tiens, cette actrice, elle a commencé là-dedans, donc c'était sympa, mais voilà, ça s'arrête là. Et surtout, enfin, je ne sais pas quel est le budget du film, mais si c'est plus de 15 patates.
Ils se sont fait avoir.
Ils se sont fait avoir, parce que c'est vraiment. Pauvre quoi. Donc voilà, ça se passe dans deux endroits, c'est-à-dire un grenier et on a dit quoi, une cave de
une cave d'une église.
Une cave d'une église ou un truc comme ça, et voilà.
D'accord.
Et après, bah, c'est très difficile de. Ouais,
les églises ont des caves.
C'est
sous le château, non ?
C'est, oui, c'est un
ouais,
château.
C'est
je
une
château-église,
enfin, ouais.
D'accord.
Ça se passe entre quatre murs.
Ça n'a pas l'air très clair, Périne.
Non, c'est marrant que tu mentionnes Cloverfield, parce qu'en fait, pendant longtemps, le film était associé à l'univers de Cloverfield. Donc Cloverfield
qui est un univers qu'on associe un peu à la hache, j'ai l'impression, chez J.J.
À la hache, oui, enfin non, parce qu'il y a vraiment eu... Il y a eu
on
le
repackage
film
des films pour les appeler Cloverfield,
oui,
et tout ça, un petit peu quand même.
Mais il y a une sorte de lien, c'est-à-dire entre le film de 2008, je crois, de Matt Reeves, en found footage, puis beaucoup plus tard, donc il y a quoi, 2-3 ans, le film 10 Cloverfield Street, qui se passait dans un souterrain, on se reliait à Cloverfield, puis le film qui est sorti directement sur Netflix par surprise, Bim Boom, en janvier dernier, là, ou en février dernier, je ne sais plus, qui s'appelait Cloverfield Paradox, était aussi lié à l'univers de Cloverfield, parce qu'on voyait les monstres. En tout cas, il y avait les monstres, ils étaient toujours là, quoi. Et pendant longtemps, Overlord était aussi rattaché à Cloverfield, mais finalement, on a appris il y a très peu de temps que, en fait, pas du tout. Il n'est pas lié, donc moi, j'étais la première à être surprise quand je l'ai lu, parce qu'en allant voir Overlord, je me suis dit, je vais essayer de faire le lien avec Cloverfield. Oui. Et je ne l'ai jamais trouvé, donc c'est logique, puisqu'il n'y en a pas. Donc, ma première déception, entre guillemets. Mais au-delà de ça, c'est vrai que oui, je m'attendais à un film de zombies avec des nazis, donc d'une certaine façon, un truc un peu, je sais pas, au moins, si ce n'est sérieux, fun, quelque chose un petit peu amusant.
Divertissant.
Et des zombies, bah, il n'y en a pas vraiment. Hein. Donc, et en plus, je sais pas, le film passe son temps à faire des fausses annonces. Par exemple, il y a une histoire d'une tante qui vit dans la maison où se retrouvent les soldats qui ont été parachutés, canardés, etc. Et cette tante, elle est malade. Et on suppose très vite qu'il y a eu des expériences qui ont été faites sur elle et que donc, elle aussi, elle est devenue un truc un peu bizarre. Et on nous la tease pendant un bon moment, cette tente. Hein. Genre, elle est là, on l'entend, on a une porte entrouverte, bim, on ferme la porte. Voilà. Et puis rien. Rien du tout. Rien du tout, du tout sur la tente, quoi. Donc, en fait, c'est le film passe son temps à faire de l'annonce. Par exemple, il y a un plan que je trouve plutôt sympa quand on va dans l'espèce de crypte, laboratoire, cave, labo, ce qu'on veut, là. Il y a un plan où on voit juste une tête avec une colonne vertébrale qui se met à parler. C'est un peu étonnant. C'est plutôt pas mal, visuellement. Et puis, on se dit, ah, tiens, on va voir des trucs un peu dégueulasses, quoi. Enfin, mine de rien, c'est un peu pour ça aussi qu'on va voir le film. Et qui est interdit au moins de 16 ans, ce qui est complètement aberrant, en soi, hein, parce que quand même... viens de me binge-watcher Narcos, qui est 100 fois plus violent que ce que je viens de voir.
Je pense que c'est nazi plus expérimentation gore, plus. Voilà, c'est... En fait, c'est plus contextuel que visuel.
Ouais, mais en fait, même contextuellement, vu qu'encore une fois, le truc n'est jamais vraiment clairement bien mis en place, le film fait jamais vraiment peur, quoi. Donc, n'est pas traumatisant. Il y a juste ce plan, là, de tête avec une colonne vertébrale, qui, pour le coup, fonctionne plutôt bien et annonce quelque chose qui ne viendra jamais non plus. Donc, en fait, c'est ça qui est perturbant, c'est que le film donne des pistes, donne des idées et part sur quelque chose de plutôt amusant et finalement n'en fera jamais rien. Oui. Et c'est quand même assez décevant de se retrouver face à ça. Puis je suis d'accord avec Stéphane dans le sens où aucun personnage n'est écrit. Il y a que la fille à peu près, une actrice française, la Mathilde Olivier, qu'on a vue nulle part, ou presque, qui est plutôt pas mal. Elle joue assez sérieusement, elle joue son truc jusqu'au bout, elle est plutôt intéressante. Pareil, moi je trouve que Wyatt... Wyatt Russell, je crois, c'est ça le nom du fils de Kurt Russell, qui ressemble beaucoup à papa quand même, à quelque chose, il joue bien. En fait, tout le monde se donne un petit peu dans ce film, même Pilou Asbeck, je crois que c'est ça son nom, Pilou, hein, qui était dans Borgen et qui a joué dans Game of Thrones. Pilou, il se donne en méchant nazi, hein, mais ça...
C'est une très belle phrase.
acteur, Pilou Asbeck. Hein.
C'est un bon acteur. Et là, le problème, c'est que...
Surtout dans les films nordiques et tout, il avait fait un film qui s'appelait War, je crois, je me souviens bien. Et après, il va se compromettre, il jouait dans Ghost in the Shell aussi.
Oui, voilà.
Ah là là.
C'est dommage, parce que c'est un bon comédien, il a du potentiel, mais là, effectivement...
C'est un peu dommage, il se donne aussi, mais le problème, c'est qu'encore une fois, comme ils n'ont rien à défendre, ils n'ont rien à jouer, ils n'ont aucune histoire à raconter, et ça se termine comme ça a commencé, c'est-à-dire « What ?» Ou qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, je n'ai rien compris. Donc, enfin, c'est pas que j'ai rien compris, il n'y a rien à comprendre. Donc, c'est vraiment. C'est même pas pour le fun qu'on y va. On n'y va pas, en fait, à Overlord.
Tout simplement, Julien.
Moi, je pense que quand tu t'empares d'une imagerie aussi chargée, aussi délicate, etc., tu te reboutonnes, en fait, là, quand je te parle, par contre, Thomas, c'est fini.
Non,
c'est
touché.
Mais en fait, quand tu abordes quelque chose comme ça, tu te positionnes très, très clairement. C'est-à-dire que, ou alors tu y vas, puis tu fais à fond dans le fun. Et puis tu fais du nazi-plotation, qui est un vrai sous-genre, hein, qui existait et tout, à fond les ballons, parce que c'est intéressant visuellement, les nazis c'était quand même les rois de la com, quoi. Donc un costume de Waffen-SS, ça a de la gueule, quoi. Le mec il a un grand manteau en cuir et tout, pour un méchant ça se pose là, quoi. Et puis la croix gammée avec la croix rouge, tout ça c'est très visuel, ça fonctionne bien, donc c'est pour ça qu'on va voir des trucs avec les nazis. C'est d'une part parce que t'as un truc cathartique fondamental qui est super fun. Et puis d'autre part parce que dramaturgiquement ça a du sens, ça fonctionne bien. C'est comme ça que les utilisait Spielberg dans les Indiana Jones, quoi. Oui. Donc ou alors tu y vas pour ça, ou alors tu essayes de faire un truc un tant soit peu sérieux, un tant soit peu chargé. Moi, quand j'ai vu le film, j'ai eu l'impression que le film avait le cul entre deux chaises. Non pas qu'il essaye de te faire un film un tant soit peu historique avec un fond et tout, mais c'est juste que t'as l'impression que les mecs ils se disent, enfin moi c'est la sensation que j'ai eue, hein, ils disent ah merde, attends, on utilise des nazis, donc on peut pas trop y aller, donc on n'ose pas trop faire les nazis, puis en même temps on va quand même essayer de... Parce que moi je pense qu'ils essayent de construire un personnage, je suis d'accord avec mes deux confrères, quand effectivement il n'y a pas de personnage, mais par contre ils essayent d'en construire, et du coup tu te retrouves coincé dans ce grenier, pendant, je sais pas, enfin c'est le deuxième acte. Moi j'ai eu l'impression qu'il passait tout le deuxième acte là-dedans, entre quatre murs, avec en plus des allers-retours de personnages. L'histoire n'avance plus, elle est figée à ce moment-là. T'as une ouverture qui est plutôt efficace, qui est pas d'une originalité folle, qui est pas du tout, mais voilà, qui est donc l'arrivée des personnages dans un avion, en fait, qui vont être parachutés à l'endroit. L'avion se fait canardés, les mecs doivent sauter en parachute, voilà. Bon, alors, c'est pas d'une originalité incroyable, c'est pas, voilà, mais ça fonctionne, ça va. Puis surtout, moi, quand j'ai vu cette note d'intention là, je me suis dit, bon, c'est un film qui va, d'une part, qui va filer droit, puis qui va être relativement généreux aussi dans l'action et tout. Même pas en monstre, en fait, encore à ce moment là. Et en fait, non, rien du tout, quoi. Ça stagne extrêmement. Il faut attendre j'allais dire le dernier acte, mais c'est même pas vrai, en fait. C'est la toute fin, en fait, le final, pour que ça bouge et que t'aies enfin une confrontation entre deux personnages un petit peu mutants qui se foutent un peu sur la gueule, avec un qui a un peu évolué, mais pas trop non plus, hein, avec une espèce de... C'est un peu l'homme qui rit, là, de Hugo, donc avec la gueule un peu défoncée, et une espèce de rictus mortifère, puisqu'on voit, en fait, son crâne.
C'est une gueule cassée, quoi. Ça
s'arrête là. Donc finalement, le truc, c'est que ça, à force de vouloir ménager la chèvre et le chou, parce que j'ai un peu quand même l'impression que c'est ça qu'a essayé de faire Overlord, le film ne fait rien, en fait, ne produit absolument rien. Et c'est pas émouvant, mais c'est pas non plus impressionnant. Non, c'est pas fun, ou alors extrêmement peu. Et voilà, donc il y a éventuellement, si je dois me faire un peu l'avocat du diable, comme le film vient de se faire quand même pas mal canarder, moi j'aime pas du tout non plus, mais il y a cette ouverture, il y a cette toute fin.
Oui.
Voilà, c'est-à-dire que si vraiment t'as un inconditionnel, tu veux voir Wolfenstein au cinéma, bah, très éventuellement, tu peux essayer, tu peux avoir ça qui peut rattraper le truc. Quoi,
sauf
voilà.
que c'est pas Wolfenstein au cinéma. C'est ça le problème, parce que le truc, c'est que...
C'est un peu vendu, marketé comme ça, mais...
Oui, mais probablement parce qu'en fait, en gros, il y a encore cette notion...
C'est pur opportunisme, bien sûr. Ouais.
Pas forcément, parce que c'est pas... Même dernièrement, c'est pas ce qui cartonne le plus en jeu vidéo, mais le truc, c'est que t'as cette notion que... Moi, c'est surtout, j'ai l'impression que c'est... J.J. Abrams, c'est une grande entreprise de dévitalisation, en fait, de ces
univers qui touchent.
Ouais, puis, mais surtout des sous-genres et des genres qu'il traite. De manière, alors bon, pour moi c'est assez évident quand ça touche spécifiquement lui en tant que réalisateur à son enfance, ouais. c'est-à-dire que ce soit Super 8 ou Star Wars épisode 7, c'est des films où il va reprendre les images avec lesquelles il a grandi et il va plaquer en fait du vent dessus quoi. Mais après le truc c'est que c'est un peu pareil en fait, on pourrait, enfin moi j'imagine Cloverfield, à part le gimmick du je parle du premier là, oui. par le gimmick de faire ça en fan footage, parce que j'imagine que c'était la mode à l'époque pour le vendre,
ça l'était, oui.
Je sais pas, il y a un espèce de truc de dire bon ben on va refaire Godzilla, sauf qu'en fait c'est pas Godzilla, oui. quoi, tu vois, c'est une espèce de mandibule avec quatre pattes là, et c'est un truc un peu, et ça apparaît 10 secondes à la fin, c'est à dire que la créature il y a 10 secondes à la fin. Et c'est juste le concept de mise en scène qui t'explicite que c'est la raison pour laquelle. Mais en fait, là, il n'y a pas de concept de mise en scène comme ça. Il y a juste effectivement, une entreprise de on n'y touche pas, on n'y va pas. Le final, voilà, comme le dit Julien, il faut vraiment spécifier. C'est un type qui a trois balafres sur la gueule un peu prononcées, quoi. C'est pas un monstre géant, c'est pas un surhomme, c'est pas. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas de créature dantesque. Yeah. C'est Pilou avec un maquillage sur la gueule.
C'est pas Cronen, quoi.
Puis il y avait la fin qui laisse supposer quelque chose qui, encore une fois, n'arrive jamais dans cette idée qu'ils annoncent qu'il n'arrive pas. C'est que, à un moment donné, quand il y a ce combat entre les deux surhommes, mutants, on voit apparaître plein d'autres qui surgissent de nulle part. Et là, pour le coup, tu fais ah tiens, visuellement, tiens, c'est marrant, là il y en a plusieurs qui arrivent, ça peut donner quelque chose. Et bim, ça pète et c'est fini, quoi. Et c'est que pour te décevoir, on te fait monter la sauce pour rien du tout, c'est un allumeur ce film, quoi. Non mais c'est un putain d'allumeur en fait, c'est fatigant.
Bah, c'est un peu de J. Abrams, être un allumeur, c'est le propre de la Mystery Box. Voilà. Non, mais je sais pas pourquoi j'ai rajouté ça,
non,
ça sert à rien.
C'est très bien. Non,
peut-être temps de conclure. Non,
je pense que ouais, je pense
que
on a fait le tour. Non, mais tu le fais très bien. Tu le fais très bien. Avant de se quitter, quand même, on va faire comme d'habitude une petite tournée de recommandations, pas nécessairement donc dans le domaine de l'horreur ou du film de guerre, parce que vous savez que vous êtes libre de vos choix en la matière. Stéphane.
En fait, il en a parlé vaguement là, Julien. C'est Wolfenstein. Moi, j'ai parlé de deux derniers Wolfenstein qui sont sortis sur PC, PS4, Xbox One. Qui sont en fait c'est un espèce de reboot, parce que bon, on sait que Wolfenstein c'est un jeu qui existe depuis des années, c'est même le père en gros du FPS, quoi. Et c'est de la nazi exploitation fait de jeux vidéo,
appliqué au jeu vidéo, ouais.
Voilà. Et dans ces deux derniers là en fait, c'est l'équipe qui avait fait, alors ça va peut-être parler aux gens qui aux cinéphiles, on va dire, les gens qui écoutent nos ciné, donc c'est ceux qui avaient fait le spin-off en fait en jeu vidéo de Chronicles of Riddick, à l'époque, Escape from Butcherbeck, qui était vraiment excellent.
Ouais, c'était un super jeu.
Voilà, qui était en gros Riddick qui se retrouvait coincé dans une prison. C'était une préquelle, je crois, si je dis pas de bêtises, à Pitch Black.
Oui, puisqu'il avait ses yeux et tout. Hein.
Voilà. Et qui était vraiment excellent, même d'un point de vue narratif. Et là, pour le coup, si tu veux, ce sont des développeurs, c'est des Suédois, qui vont vraiment loin dans ce qu'ils traitent. Ils l'avaient fait avec Riddick et ils l'ont fait avec Wolfenstein. À la fois, en fait, c'est un vrai travail d'équilibriste. À la fois dans l'écriture et à la fois dans ce que tu joues, c'est-à-dire en gros défoncer du nazi de manière ultra jouissive. Et les deux derniers Wolfenstein, il y a notamment Wolfenstein 2 qui est sorti l'an dernier, qui est complètement dingue en termes de... Enfin, si vous aimez ce genre déjà de jeu, puis ce genre d'histoire en fait, et que vous avez envie de voir un jeu qui va vraiment à fond dans les ruptures narratives, dans tout ce genre de choses-là, moi je conseille vraiment Wolfenstein 2. Je pense qu'il faut avoir fait le premier aussi quand même pour suivre l'histoire, et c'est blindé en fait d'idées complètement barrées que tu vois plus du tout au cinéma, dans le cinéma d'exploitation actuel, quoi. Et certainement pas donc dans Overlord. Voilà.
Périne.
Je vais rester dans le domaine de l'horreur et des nazis avec Dead Snow de Tom Virkola qui était sorti en 2009 si je dis pas de bêtises, où là c'est un peu les zombies nazis font du ski, enfin il y avait l'idée
Nazi zombies on ice.
Nice. Donc voilà, c'était des jeunes gens qui je sais plus de quelle nationalité le film, mais pays du Nord là-haut, oui. Donc danois, suédois, enfin par là. Ouais. Et je dirais
les
danois.
Nazis, quoi.
Et donc c'est des gars qui vont faire du ski et ils sont tranquilles et je ne sais plus par quel miracle mais ils réveillent des nazis morts sous la neige qui sont devenus des zombies et donc ils vont devoir lutter contre ça. Et pour le coup, ça avait le mérite d'être n'importe quoi, mais d'être dans n'importe quoi fun et d'y aller franchement, de buter du nazi avec des arbres et des skis. Et moi, je trouvais que ça fonctionnait pas si mal. Donc pour le coup, si on cherche à avoir du fun avec les zombies nazis, je pense que Dead Snow est plus approprié qu'Overlord.
Très bien.
Alors
Julien.
Moi. Je savais pas, hein, voulait faire ça. Moi je voulais je vais faire Dead Snow 2. Alors, c'est parce qu'ils volent de l'air de l'or en fait, hein, qu'il y avait les zombies. Mais alors moi j'aime pas trop le premier Dead Snow, mais alors le 2 par contre, c'est vraiment super rigolo et justement dans le en fait Tommy Vercola, il avait fait le premier Dead Snow, il allait tourner Hansel et Gretel aux États-Unis, puis ça s'est pas très bien passé, il a été démis du film, il s'est fait un peu virer et en fait, il est revenu pour faire Dead Snow 2, il avait plus de moyens, il avait une partie de l'équipe américaine, par exemple, il y avait Spectral Motion qui faisait des maquillages sur le deuxième qui avait fait notamment qui avait travaillé sur les Hellboys. Plusieurs Del Toro. Et puis il avait une vengeance à prendre, quoi. Et autant, moi, j'avais trouvé que dans le premier Death Note, ce concept-là, justement, il arrivait à la fin. Si mes souvenirs sont bons, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, donc peut-être que Perrine s'en souvient mieux que moi.
Mais alors, par contre,
le 2, ils sont là tout le temps. Oui. Ils réveillent deux armées, les mecs. Ils ont un tank Tiger, là,
ah, oui,
machin, et puis ils défoncent les arbres et les machins et tout. Il y a un zombie qui sert à. Parce qu'il y a une voiture à un moment qui s'embourbe, alors on met un copain zombie sous les roues pour qu'il sorte et tout. Alors, c'est pas Brendan. Je vais pas vous le survendre, hein. C'est pas aussi inventif, c'est pas aussi généreux, c'est pas aussi fou. En plus, le mec, Tommy Virkola, il aime ce qu'on aime. Enfin, c'est-à-dire que tu sens qu'il y a le loup-garou de Londres par-ci, qu'il y a Evil Dead par-là, parce que le héros, il a un bras zombie, enfin bref. Mais c'est pas toujours super bien digéré. Enfin, tu vois, le truc entre le plagiat et l'hommage est pas toujours Mais ça fait rien. Et surtout, ce qui était cool dans le 2, c'est que dans mon souvenir, en tout cas, ça fait longtemps, il était sorti chez Wildside directement en vidéo, hein, le 2. Et ce qui était cool, c'est qu'il jouait à mort justement sur l'imagerie nazie, quoi. Ouais. Et il y avait un truc assez délicat quand on parle de nazie, mais c'était jouissif, hein, c'était super fun, quoi, parce que tu vois, le méchant zombie là, justement avec son costume de SS, enfin il jouait à fond là-dessus, quoi, sur les armes, etc. Et c'était assez, moi j'en garde un plutôt bon souvenir. En plus, c'était un film qui, à mon avis, avait pas du tout le budget d'Overlord, et pourtant il en donnait beaucoup beaucoup plus. Encore une fois, t'as quand même deux armées, alors c'est des petites armées, hein, c'est pas le Seigneur des Anneaux, mais t'as deux petites armées qui se foutent sur la gueule, quoi, et qui au passage en plus tuent des petits vieux, tout ça, enfin, c'est rigolo, c'est un bon petit film.
Il dit ça avec une gourmandise absolument terrifiante. Notre temps est écoulé, merci à tous les trois, merci à Julien la technique, à l'antenne pareil pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, et puis on vous dit à très vite.
Binge. A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.